Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne-Françoise Dumont.
Canal Académie reçoit aujourd'hui, pour Au fil des pages, Monsieur Christophe Trenel. Christophe Trenel vient de publier chez Timé Éditions Le français en partage. Christophe Trenel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né à Lille, je crois. Vous y avez fait vos études de droit. Mais c'est à l'Université Paris 2 que vous venez de soutenir votre thèse de doctorat en sciences politiques. La politique, c'est pour vous, semble-t-il, une passion.
Oui.
La politique, et tout particulièrement, est-ce la proximité de la Belgique, les aspirations identitaires, wallonne, québécoise, acadienne. Bref, la francophonie. D'où ce livre qui nous réunit aujourd'hui et dont vous allez tout d'abord, si vous le voulez bien, commenter pour nous la couverture. Son titre, Le français en partage, le visage souriant qui l'illustre, la préface et son auteur.
Alors pour ce qui concerne le titre, Le français en partage, évidemment on aurait pu l'appeler tout simplement La francophonie, mais avec la maison d'édition, on a préféré l'appeler Le français en partage, je dirais pour trois raisons majeures. La première, c'est cette dimension du partage, c'est une des valeurs importantes de la francophonie, sinon la valeur la plus importante. Le partage, c'est l'échange, la communication, l'interaction. La mise en commun, nous sommes tous différents au sein de la francophonie, de cultures, de continents différents. Et pourtant, nous pouvons nous comprendre parce que nous partageons une langue,
la même langue
qui nous est propre, la même langue, voilà. C'est finalement cette fameuse unité dans la diversité dont on parle souvent au sein des institutions de la francophonie. En somme, le français en partage, c'est ce qui fait de la francophonie une communauté à part entière. Alors ça, c'est la première raison, je dirais, du choix de ce titre. Et il y a une deuxième raison, c'est que cette expression, le français en partage, est assez connue dans la francophonie associative et institutionnelle, et assez répandue. Le sommet de la francophonie, par exemple, s'appelle officiellement « Sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage ».
C'est ça.
C'est un peu un clin d'œil, donc, ce titre à cette francophonie institutionnelle si présente et si importante.
Bien sûr.
Ce qui n'a pas toujours été le cas, bon, on va peut-être le voir plus tard. La troisième raison de ce choix, c'est qu'il fallait un titre qui représente toutes ces petites anecdotes amusantes ou curieuses qui portent sur la francophonie, certes, mais aussi sur la langue française elle-même. Ses accents, ses usages, son orthographe, pas toujours facile, ses règles aussi parfois déroutantes. Il fallait donc un titre représentatif de toutes ces petites histoires qui figurent dans mon livre. Concernant le visage maintenant qui figure sur la couverture.
Oui.
En fait, il me fallait vraiment mettre un... On a hésité un peu en se disant, est-ce qu'on va mettre un visage, est-ce qu'on va mettre un paysage? On aurait pu mettre un visage anonyme ou un paysage anonyme ou même une carte. Et finalement, il y a un visage qui s'est tout naturellement imposé, je dirais, c'est celui du père fondateur, mais aussi du personnage le plus représentatif de cette francophonie tolérante et multiculturelle que je voulais justement présenter dans le livre. C'est le visage du président poète, hein, de l'Africain académicien. C'est le visage donc de Léopold Sédar Senghor.
Très bien.
Alors sur la photo, c'est vrai qu'il est un peu jeune. Hein, il vient d'être élu président de la République.
Éternellement jeune.
Voilà, c'est ça.
Parce que
poète, tout à fait. Et il s'apprête à devenir, avec d'autres, hein, bien sûr, le chantre, le pèlerin de la francophonie multilatérale et institutionnelle.
Très bien. Alors, et la préface ?
Alors, la préface, ben, elle est un peu liée à la couverture, évidemment, puisque la préface a été écrite par Abdoulaye Wade, l'actuel président de la République du Sénégal, qui a été contacté par la maison d'édition et qui a très gentiment vraiment accepté de préfacer mon livre. Alors,
on
voulait vraiment que cette préface soit écrite par le représentant de l'un des pays les plus importants de la francophonie,
très
qui
bien.
Est le Sénégal.
Alors, feuilletons ensemble votre livre, Christophe. De ces 50 plus belles histoires, nous avons retenu les plus significatives. D'abord, voulez-vous nous dire à quoi correspondent ces trois dates capitales, 840, 1539 et 1635? Alors, la première, 840.
Alors, Pourquoi ces dates? Bien sûr, il y a dans mon livre d'autres dates que ces trois dates, mais ces trois dates sont vraiment importantes.
Oui, trois dates que j'ai choisies.
Voilà, c'est ça. C'est vous qui les avez choisies.
Bien
mais,
sûr.
C'est un très bon choix, de toute façon, parce que c'est vraiment trois dates capitales dans l'histoire de la langue française. Puisque ce sont trois dates charnières dans cette histoire de la langue. En 840, c'est une date, c'est l'une des premières dates marquantes de l'histoire de la langue française, puisque à cette époque, Louis le Pieux, descendant de Charlemagne, donc le fils de Charlemagne, est mort et il a trois fils. Alors ça représente un problème puisque les règles du partage veulent que l'empire donc soit divisé entre les trois fils de l'empereur. Et donc il y a évidemment des guerres et deux des frères se partagent finalement cet empire. L'un prend la partie romanisée, c'est Charles, et l'autre la partie germanique, c'est Louis. Et pour bien respecter le pacte qui se lie entre ces deux monarques, les deux hommes prêtent serment à Strasbourg, chacun dans la langue de l'autre. Voilà, c'est ça.
Quelle image, quel symbole.
Donc pas en latin, mais en langue romane et oui. En langue germanique. Alors le serment est retranscrit par un dénommé Nithard, un clerc, et il constitue, grâce à cette transcription, l'un des premiers documents officiels rédigés dans ce
en
qui
français.
Est presque, mais pas encore tout à fait, du français.
Français,
presque du français.
Bien sûr, français du 9e siècle.
Voilà.
Alors, 1539.
Alors là aussi, c'est encore une date très importante pour le français.
Date clé, date charnière.
Voilà. À cette époque, c'est le règne de François Ier. Et les langues sont en concurrence déjà à cette époque, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, elles le sont. Le latin voit sa place à cette époque contestée, disputée par le français, tant dans les domaines des sciences que dans les arts, dans la littérature, mais aussi les actes officiels. Alors qui doit l'emporter? C'est la question. Et en fait, c'est le roi qui va décider, tout simplement. Or, François Ier n'est pas très bon, on peut le dire, à l'époque, en version latine. La langue de la cour, c'est plutôt le français et non le latin. Alors, le roi va trancher et, évidemment, pas en faveur du latin, mais en faveur du français.
Très bien.
C'est une date importante puisque par cette ordonnance, dite
de
Villers-Cotterêts, voilà, il décide que désormais, tous les actes publics seront rédigés non pas dans des langues locales, non pas en latin, mais dans la langue du pouvoir royal, c'est-à-dire en français. Le français devient ainsi la langue normale, officielle de l'administration du royaume de France. C'est une première.
Alors, 1635, la dernière de celles que j'avais choisies.
Alors, en 1635 est créée l'Académie française, tout simplement.
Alors,
dans mon livre, je raconte que contrairement à ce que l'on croit en général, ce n'est pas Richelieu qui a créé l'Académie. Ainsi, il la fonde en lui donnant des statuts. Ce sont quelques grands esprits de l'époque, dont un dénommé Conrart, calviniste, secrétaire du roi, qui en prennent l'initiative. À cette époque où commencent à foisonner les salons, le cardinal de Richelieu sent l'aubaine de ces petites réunions de grands esprits et aide cette société d'amis en l'institutionnalisant et en lui donnant une mission officielle, fixer la langue. C'est une manière pour le cardinal d'attacher à sa personne tous ces esprits influents. Et en même temps, indirectement, je dirais, il crée une véritable institution qui, toujours à notre époque, constitue une, sinon la référence en matière de langue française.
Très bien.
Et c'est d'ailleurs pas un hasard si, en 1989, à notre époque, Michel Rocard, alors Premier ministre, confie cette fameuse réforme de l'orthographe à des académiciens, dont Maurice Druon.
Très bien, oui, absolument. Alors, il nous faut dire un mot d'Onésime Reclus. Qui est Onésime Reclus? Pourquoi Onésime Reclus? Et vous allez nous dire également quel était ce Que sais-je numéro 2111 de Xavier Degnaud. Paru en 83. Brièvement.
Alors, Onésime Reclus est presque, je dirais, un inventeur malgré lui de ces mots francophonie et francophone. D'ailleurs, il est très prudent à l'époque quand il les écrit le premier, puisqu'il les écrit entre guillemets dans son ouvrage France, Algérie et colonies, qu'il publie en 1880. Le terme ne fera d'ailleurs pas recette à l'époque. Il est très vite oublié, mis de côté complètement. Il faut dire que, à cette époque, comme le dit d'ailleurs Xavier Degnaud dans son livre sur la francophonie, on préférait classer les individus non en fonction de la langue, mais en fonction de critères comme l'état d'avancement économique et social ou encore la race. C'est simplement après la Seconde Guerre mondiale, peu à peu, qu'on redécouvre ce terme francophonie. Il est bientôt en concurrence pour désigner la communauté des individus ayant le français en partage. Il faut un terme pour définir cette communauté naissante. Finalement, ce terme est en concurrence avec le terme francité. Mais c'est la francophonie qui finit par s'imposer, grâce à Senghor, entre autres, mais aussi grâce au célèbre « Que sais-je » de Xavier Degnaud, qui s'intitule tout simplement « La francophonie ».
Voilà. Alors, nous retrouvons maintenant cette figure admirable qui est au centre de votre ouvrage, celui que vous avez choisi comme emblème. Je veux bien sûr parler de Léopold Sédar Senghor, que vous mentionniez à l'instant.
Oui. Alors, Senghor est un père fondateur, d'abord, pour avoir eu très tôt une merveilleuse intuition. C'est qu'après les indépendances des colonies d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, la langue française resterait partagée par tous ces pays à l'histoire commune et que ce serait bien dommage de laisser ce lien de la langue dépérir. Même si, comme il le dit lui-même, ce n'est pas lui qui a inventé la francophonie, c'est vraiment lui qui l'a propulsé en militant avec d'autres à ses côtés, pour que cette francophonie s'organise, comme j'en fais d'ailleurs état lorsque je décris les pérégrinations de Senghor au Québec, en Afrique ou en France, parce qu'à l'époque, il fallait convaincre même la France, et ce n'était pas facile, bien loin de là. En plus d'un père fondateur, donc c'est vraiment lui le pèlerin de la francophonie, celui qui va essayer de convaincre finalement les Français, les Québécois de l'intérêt d'organiser institutionnellement la francophonie. En plus d'un père fondateur, c'est une figure emblématique parce que son destin, sa vie, est marqué par la francophonie et la langue française. Il naît en Afrique, poursuit ses études de lettres en France, dans les plus grandes écoles de la République, à Paris. Il commence une carrière politique, il défend et organise la décolonisation de l'Afrique et devient enfin le premier président de la République du Sénégal, enfin indépendant.
Oui, aux joies pour son peuple.
Voilà, tout à fait. Donc, outre ce brillant destin, il écrit, il compose, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un poète, c'est un écrivain, et un peu comme Césaire, Aimé Césaire, qui est une autre figure de la francophonie, mais plutôt littéraire, tout à fait, qui est ami d'enfance, enfin du moins de
condisciple.
Voilà, condisciple à Louis le Grand. Et finalement, cette carrière artistique aussi est consacrée par son entrée à l'Académie française en 1984, si ma mémoire est bonne.
La gloire. Voilà. Christophe Trenel, merci. Nous allons interrompre ici notre entretien pour le reprendre au cours d'une prochaine émission. Vous nous raconterez bientôt d'autres belles histoires tirées du français en partage que vous venez de publier, rappelons-le, chez Timé Éditions.
Merci.